Et voici le journal de Maxime Fayolle. Bonjour Maxime.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. L'Italie se cherche un nouveau gouvernement. À partir d'aujourd'hui, le président Sergio Mattarella va recevoir les différentes formations politiques du pays. Elles tenteront de proposer une nouvelle coalition dans le but d'éviter des élections anticipées.
Une instabilité politique alors que le G7 débute en fin de semaine à Biarritz. Sommet, mais aussi contre-sommet, à quelques kilomètres plus au sud, à Hendaye. Les avocats s'attendent à un week-end mouvementé avec plusieurs centaines de gardes à vue par jour.
Nous irons aussi aux États-Unis où la campagne pour la présidentielle de 2020 commence petit à petit. La question raciale va prendre cette fois beaucoup d'importance, notamment après les propos de Donald Trump sur les Afro-Américains. Reportage à suivre à Baltimore, dans le Maryland. 14 mois, c'est le temps qu'aura duré la coalition au pouvoir en Italie entre d'une part le mouvement populiste 5 étoiles et d'autre part la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini. Elle a pris fin hier avec la démission du président du Conseil, Giuseppe Conte. Et s'il gère les affaires courantes, le pays doit rapidement retrouver un autre gouvernement. Pour ce faire, aujourd'hui, c'est le président italien Sergio Mattarella qui va recevoir chaque formation politique au Palais du Quirinal. L'une des options, c'est un front anti-Matteo Salvini qui pourrait se traduire par une coalition improbable, Antonino Gallofaro, entre le mouvement 5 étoiles et le Parti démocrate.
Il existe au sein du mouvement 5 étoiles une âme de gauche, comme on dit ici en Italie. Une partie de la formation qui a dû accepter à contre-cœur une alliance avec l'extrême droite de Matteo Salvini. Mais pas dit que celle-ci apprécie plus un rapprochement avec le Parti démocrate, comme semble pourtant le vouloir le fondateur, l'ancien comédien Beppe Grillo. En effet, l'une des questions qui a le plus irrité Matteo Salvini durant un an de gouvernement avec les 5 étoiles, c'est leur rejet constant de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Eh bien, les démocrates, comme la Ligue, y sont favorables. Il sera donc difficile, voire impossible, de trouver un point d'entente en cas d'alliance 5 étoiles Parti démocrate. Et puis, comment faire avaler aux militants 5 étoiles une alliance avec le parti des banques et du système? Le mouvement anti-système a toujours accusé les démocrates de sauver les banques en faillite sans se soucier des épargnants lésés. Même problème pour le parti de gauche. Pendant un an, l'ancien premier ministre Matteo Renzi a toujours refusé même d'imaginer un gouvernement avec les 5 étoiles. Jusqu'à cette crise politique.
Antonino Gallofaro, une crise politique avec un Matteo Salvini à la baguette, puisque c'est lui qui a déposé la motion de défiance qui a mené à cette démission de Giuseppe Conte. Le désormais ancien président du Conseil n'a d'ailleurs pas manqué de régler ses comptes hier avec son ministre de l'Intérieur. Mais cette démission est-elle néanmoins un bon coup politique pour Matteo Salvini? Ce n'est pas certain, estime le politologue et spécialiste de l'Italie, Jean-Pierre Darnis.
Salvini, il a reçu une attaque très violente de la part de Giuseppe Conte et il était assez sonné. Il a pas perdu la guerre, hein, mais il a perdu quelques batailles tactiques au cours des derniers jours. Parce que il croyait, les gens autour de lui croyaient que en débranchant le gouvernement en plein été, en provoquant la crise, puisque c'est bien la Lega et c'est bien lui qui a déposé une motion de censure, ils allaient pouvoir rafler la mise. Parce qu'ils imaginaient absolument pas qu'il y ait une possibilité d'alliance entre Parti démocrate et 5 étoiles. Or, la mobilisation autour de ça gêne considérablement ses plans. Il est reparti en campagne, mais s'il n'y a pas d'élection, c'est sûr que ça risque d'être un moment, de, je ne veux pas dire de passage à vide, mais enfin, où il n'aura plus les instruments de propagande qu'il avait, par exemple, au ministère de l'Intérieur.
Jean-Pierre Darnis, maître de conférence à l'Université Côte d'Azur, répondait à Juliette Jay. L'Italie qui se voit également imposer l'accueil du navire humanitaire Open Arms. Après 19 jours en mer, un juge a ordonné hier la saisie du bateau. Il a accosté cette nuit sur les côtes de Lampedusa. Cette crise politique italienne qui survient en tout cas à quelques jours du G7 en France qui débutera samedi à Biarritz. Et finalement, l'Italie et Giuseppe Conte ne sont pas les seuls à être dans une situation interne délicate à l'approche de ce sommet. Les grandes puissances n'ont peut-être jamais été autant affaiblies. Franck Madvon, c'est le cas de l'Italie donc, mais aussi de la Grande-Bretagne.
Boris Johnson est sans doute le plus attendu. Il n'est en fonction que depuis un mois. Il martèle que le Royaume-Uni quittera l'UE quoi qu'il advienne le 31 octobre, en dépit des nombreuses mises en garde contre un Brexit dur. Johnson doit voir Merkel et Macron aujourd'hui et demain, mais prend clairement ses distances avec les Européens pour, peut-être, se rapprocher de Donald Trump. Pas sûr que ce soit un bon calcul, l'Américain est déjà en campagne. A priori, il ne se rend pas à Biarritz pour s'y faire des amis, lui qui a refusé l'an dernier de signer la déclaration finale du G7. L'Italien Giuseppe Conte a annoncé sa démission hier, Angela Merkel a encore 2 ans à tenir mais a rarement été aussi affaiblie, le Canadien Justin Trudeau est en mauvaise posture à 2 mois des élections, seul le Japonais Shinzo Abe conserve une popularité relativement intacte. Emmanuel Macron aura le plus grand mal à faire parler ses dirigeants d'une seule voix sur les grands dossiers du moment, l'Iran, les tensions commerciales, la course aux armements, les positions divergent, d'où cette question qui surgit régulièrement. À quoi sert encore le G7 ?
Franck Madvon, c'est une question qui se pose en effet, et particulièrement à quelques kilomètres au sud de Biarritz, à Hendaye. C'est là que se tient le contre-sommet du G7. Altermondialistes, écologistes sont réunis, plus de 80 associations au total. Elles seront largement encadrées par les forces de l'ordre, qui seront plus de 13 000 sur ce long week-end de G7. Un dispositif impressionnant dévoilé hier par Christophe Castaner. Plus étonnant encore, les avocats ont prévu d'être disponibles en nombre. Et à toute heure de la nuit, Rosalie Lafarge, eux aussi s'attendent à un week-end mouvementé.
En face du palais de justice de Bayonne, la maison de l'avocat fourmille. Jusqu'au 1er septembre, 70 avocats sont mobilisés jour et nuit, 10 fois plus qu'en temps normal. Mais à événement exceptionnel, dispositif exceptionnel, souligne Myriam Unal.
Pour ma part, ça fait déjà 2 nuits que je suis sur le qui-vive.
Cette avocate au barreau de Bayonne fait partie des chefs d'équipe de permanence.
Il est annoncé environ 300 gardes à vue jour, donc éventuellement 300 avocats par jour. Donc nous sommes 70, mais nous pouvons gérer plusieurs gardes à vue en même temps. Et nous sommes en tout cas présents pour répondre sur ces demandes.
Les avocats mobilisés ont reçu une formation spéciale pour maîtriser les dernières lois et jurisprudences. Ils peuvent aussi compter sur l'anticipation de leur numéro 1.
Là, en fait, on arrive en rez-de-chaussée. On a transformé donc, pour l'occasion en dortoir. Donc là, on a 3 lits. On a prévu de pouvoir monter jusqu'à 6 lits si nécessaire.
L'ancien pompier devenu bâtonnier de Bayonne, maître Teddy Vermotte, a transformé la maison de l'avocat en mini-caserne pour le G7.
Alors d'abord, on a mis en place un centre de traitement des appels 24 heures sur 24 pour répondre au téléphone et pouvoir dispatcher ensuite les avocats dans les lieux qui le nécessiteront. Et puis vous l'avez compris, dès lors qu'on va travailler 24 heures sur 24, on a mis en place un dortoir au rez-de-chaussée de la maison de l'avocat. On a fait installer pour l'occasion une douche et puis on fait livrer des plateaux repas. Voilà, en fait, on a anticipé de façon à savoir que, et j'y tiens, c'est un point très important, l'effectivité de la présence de l'avocat sera parfaite.
Mais encore faut-il que l'avocat accède à son éventuel client. La circulation s'annonce très compliquée dans le secteur, notamment pour se rendre au centre de rétention administrative d'Hendaye, vidé de ses occupants pour accueillir le temps du sommet une partie des personnes placées en garde à vue.
Reportage de Rosalie Lafarge. Mais avant de devoir gérer ce G7, le gouvernement retrouve son pain quotidien aujourd'hui. Premier conseil des ministres ce matin. Et si cette mouture promet d'être plutôt légère, le gouvernement s'attend à gérer de nombreux dossiers à la rentrée, dont certains sont potentiellement explosifs, Hugo Charpentier.
La parenthèse internationale du G7 à Biarritz ce week-end ne durera pas. Et dès la semaine prochaine, Emmanuel Macron et son gouvernement vont devoir se pencher sur des dossiers nationaux et souvent brûlants. Au premier rang desquels la réforme des retraites. Si les partenaires sociaux seront bien reçus dans 15 jours à Matignon, plusieurs syndicats de différentes branches ont d'ores et déjà prévu 3 journées d'action. La première, dès le lundi 16 septembre. Les opposants à cette réforme fustigent le rapport présenté le mois dernier par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye. Rapport qui prévoit la disparition des 42 régimes existants dans un futur système universel, ainsi qu'une décote pour ceux qui partiront avant un âge d'équilibre fixé à 64 ans. En parallèle, l'exécutif va devoir faire accepter d'autres réformes tout aussi délicates, comme l'ouverture de la PMA pour toutes ou encore le nouveau mode de calcul des aides au logement. Et tout ça, sans oublier les entrées en vigueur des réformes de l'assurance chômage, du bac ou de la fonction publique. Comme chaque année, l'agenda de la rentrée comporte donc son lot de sujets minés pour le gouvernement, avec un point de vigilance particulier, les 220 services d'urgence toujours en grève partout en France. Une mobilisation dans les hôpitaux qui ne faiblit pas et qui pourrait obliger Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, à revoir sa copie. Enfin, la question d'une résurgence du mouvement des Gilets jaunes reste posée. Il a en partie disparu des écrans radars, mais peut-il repartir ? Emmanuel Macron, lui-même, ne l'exclut pas.
Hugo Charpentier, avant de régler en tout cas ces grandes questions que seront notamment la réforme des retraites et la PMA, il s'agira aujourd'hui lors de ce Conseil des ministres d'apporter des précisions sur le compte personnel de formation, un CPF que tous les salariés peuvent utiliser pour se former au cours de leur vie professionnelle et dont les formalités pourraient être assouplies par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Il faut dire à Annabelle Grelier que le dispositif assez complexe car en pleine mutation est aussi méconnu des Français.
Créé depuis 4 ans, le CPF ne décolle pas. Sur les 33 millions d'actifs concernés, moins de 8 millions ont ouvert leur compte, qui pourtant se fait en seulement quelques clics sur le site du ministère. Présenté comme un droit universel visant à cumuler des droits à la formation, le dispositif manque de lisibilité. Et pour le rendre plus attractif, Muriel Pénicaud a dû revoir sa copie. Les heures cumulées seront transformées en euros sur la base de 15 euros de l'heure. Ils pourront être utilisés à n'importe quel moment et sans limite dans le temps. l'ordonnance prévoit également que les droits qui avaient été acquis sur l'ancien dispositif, le DIF, ne seront pas perdus comme il était prévu. Cela représente quand même des millions d'euros de droits à la formation qui devaient tout bonnement disparaître. Un geste qui n'est pas franchement perçu comme généreux par les syndicats qui déjà déploraient la perte de valeur des droits acquis lors de la conversion d'heures de formation en euros. Enfin, dès 2020, le CPF sera crédité de 500 euros par an. Tous les actifs bénéficieront alors des mêmes droits, qu'ils travaillent à mi-temps ou à temps complet, qu'ils soient demandeurs d'emploi ou indépendants. Toutefois, le CPF sera plafonné à 5000 euros, ce qui correspond environ à 2 formations tous les 10 ans.
Les précisions d'Annabelle Grelier pour France Culture.
8h10 sur France Culture, c'est la suite du journal de Maxime Fayolle en Australie. La peine du cardinal George Pell pour abus sexuels sur mineurs confirmée par la justice.
Il avait interpellé appel de cette condamnation à 6 années de prison. Le numéro 3 du Vatican est le plus haut responsable à avoir été condamné dans une affaire d'abus sexuels. La décision de la justice australienne a été saluée cette nuit par les familles de victimes. Donald Trump, de son côté, annule sa visite au Danemark. Elle était prévue dans 2 semaines. La raison, c'est le refus de la première ministre danoise de vendre le Groenland. Le territoire est ciblé par Donald Trump qui souhaite l'acquérir. Le Danemark a immédiatement signalé que le Groenland n'était absolument pas à vendre. Donald Trump qui pose aussi des jalons pour l'élection présidentielle de 2020. Le Make America Great Again est devenu Keep America Great Again. Gardons la grandeur de l'Amérique. Une grandeur que le président américain ne voit visiblement pas partout. Rappelez-vous de ses propos sur Baltimore il y a quelques semaines sur Twitter. Un cloaque dégoûtant infesté de rats et autres rongeurs. Propos qui se considéraient comme racistes par la population de Baltimore à grande majorité noire. La question raciale sera centrale dans les prochains mois en vue de la campagne. Elle est déjà très sensible à Baltimore où le président Trump a soufflé sur des braises encore brûlantes. C'est ce qu'a pu constater notre correspondant Grégory Phillips qui s'est rendu à Baltimore dans le Maryland.
C'est la plus vieille église afro-américaine de la ville, située dans West Baltimore, dans un quartier gangréné par les trafics de drogue, le crime, la pauvreté, et comme dans la série télévisée The Wire, à perte de vue, des maisons aux fenêtres murées par des planches de bois abandonnées. Mais ce dimanche matin, les fidèles de la Madison Presbyterian Church sont bien là. Et celle qui prononce le prêche, le pasteur Phyllis Felton, tient à revenir sur les propos tenus par le locataire de la maison blanche.
Être ainsi décrit comme un endroit infesté de vermine et comme une ville où personne n'a envie d'habiter, nous ne sommes pas ça. Oui, notre ville a des difficultés, mais Trump prêche la division et la haine. Ça nous divise et ça nous plombe.
En attaquant ainsi le représentant démocrate Elijah Cummings et sa ville de Baltimore, Donald Trump met-il volontairement de l'huile sur un feu qui ne s'est jamais vraiment éteint aux États-Unis? C'est l'avis du professeur de sciences politiques et d'histoire afro-américaine, Julian Etter, de l'université de Richmond, en Virginie.
Le racisme est une stratégie politique aux États-Unis depuis presque toujours. Donc, venant de Trump, ça ne me surprend pas. On parle d'un homme qui, au moment de l'élection d'Obama, a émis des doutes sur le certificat de naissance du président et sur sa nationalité.
Dans les derniers sondages, Donald Trump ne recueille aujourd'hui que 6 à 18% des intentions de vote de la population afro-américaine. À Baltimore, les plaies sont encore à vif. Fin juillet, le Baltimore Sun, le journal local, publiait cet éditorial au vitriol. Il vaut mieux avoir quelques vermines dans son quartier plutôt que d'en être une soi-même.
Le reportage à Baltimore de Grégory Phillips pour France Culture. Le président américain qui propose également de jouer le médiateur dans le conflit qui oppose l'Inde et le Pakistan sur la situation au Cachemire. Une situation que Donald Trump juge très compliquée. Ce matin encore, 2 personnes sont mortes dans la région selon la police indienne. Il s'agit d'un terroriste et d'un officier de police. Il s'agit du premier incident rapporté par les autorités indiennes depuis qu'elles ont pris le contrôle du Cachemire. On termine par un mot de cinéma et cette bande-son que certains fans n'ont pas oubliée. Il s'agit de Club to Death, la bande originale du film Matrix. Un 4e film de la série va voir le jour 20 ans après le premier long métrage avec Keanu Reeves. Le tournage va débuter l'an prochain. Il sera réalisé par Lana Wachowski, déjà réalisatrice de la trilogie. Le temps de ce mercredi en musique et c'est un beau soleil qui revient sur la plupart des régions. Quelques ondées orageuses sur les Alpes et du brouillard persistant sur la Normandie et les Pays de la Loire. Les températures de 8 à 13 degrés en moyenne ce matin. Ce journal a été préparé par Martin Descloseaux.